BFM Business, midi, l'heure H, avec Karine Verniol.
Bonjour, et l'heure H, c'est jusqu'à 13h. Nous sommes ensemble pour faire un tour de l'actualité du jour. Et au menu aujourd'hui, on débute, tiens, c'est pas si souvent, avec une bonne nouvelle, en tout cas une relative bonne nouvelle. La croissance française, elle pourrait accélérer au troisième trimestre. Selon les prévisions de la Banque de France, le PIB devrait croître de 0,3%. Explication dans un instant. Enfin, pour autant, évidemment, pas d'optimisme exagéré. En ce moment, regardons par exemple du côté des entreprises, le numéro 1 mondial du travail temporaire Adecco, freiné par l'Europe au deuxième trimestre, justement s'inquiète du Brexit, on en reparlera, et du ralentissement dans le secteur automobile. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 ce matin est plutôt à la hausse de 1,2%. On fera un point complet sur les marchés à la fin du journal. Et puis, je ne voudrais pas vous mettre le blues, mais la rentrée qui approche quand même. Bah oui, quand on évolue dans le secteur des fournitures de bureaux comme office dépôt, ça fait déjà un moment qu'on s'y prépare. D'autant qu'à l'heure où les ordinateurs ont remplacé le papier et les stylos, le groupe croit toujours en son avenir. Mais si, son président nous expliquera pourquoi, il sera avec nous à 12h40. Mais tout de suite, c'est le journal avec Maëlle Laurent. Bonjour Maëlle.
Bonjour Karine et bonjour à tous.
Et donc on commence avec cette relative bonne nouvelle concernant l'économie française.
Effectivement Karine, c'est la Banque de France qui l'a annoncé ce matin. Elle table sur une légère accélération de l'activité au troisième trimestre. 0,3% de croissance en première estimation, ce qui représenterait une légère amélioration par rapport aux 0,2% enregistrés au deuxième trimestre. Les détails d'Osman van der Dey.
Moins pénalisée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la Banque de France prévoit une accélération de la croissance de 0,3% au troisième trimestre. Une légère amélioration après les 0,2% entre avril et juin dernier. La consommation des ménages devrait enfin doper l'activité grâce notamment aux gains de pouvoir d'achat liés aux mesures d'urgence post-gilets jaunes. Jusqu'à aujourd'hui, les Français avaient préféré épargner, mais selon la Banque de France, la proportion des ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats progresse. L'enquête pointe aussi la stabilité du climat des affaires, quel que soit le secteur d'activité. 95 dans l'industrie, 100 dans le service ou encore 104 dans le bâtiment. On constate donc un rebond par rapport au mois de juillet. Avec ces résultats, l'acquis de croissance, c'est-à-dire le niveau que le PIB atteindrait à la fin de l'année, si la croissance restait nulle au cours du prochain semestre, était au 30 juin de 1%.
Un contexte économique en France avec cette croissance qui rebondit légèrement et des taux d'emprunt qui continuent à baisser. Le 10 ans français hier a baissé à moins 0,31% en séance et le mouvement de détente sur l'obligataire s'intensifie en Europe. Les records tombent un à un, notamment en Allemagne où le Bund, le taux de référence à 10 ans, qui a même atteint un plus bas historique, un record à moins 0,61%.
Et oui, et sur cette question des obligataires, on en reparlera avec notre invité juste après le journal, Maëlle Philippe Wechter.
Baisse sur obligataire donc, cette valeur refuge, et dans les valeurs refuge il y a également l'or. L'or qui continue de grimper, l'once d'or a temporairement franchi hier la barre des 1 500 $. C'est une première depuis avril 2013 et cela représente une hausse de plus de 15% depuis début juin.
Et puis dans ces marchés tumultueux, dans cette tension commerciale qui continue entre la Chine et les États-Unis, eh bien malgré tout, ça c'est assez étonnant Maëlle, la Chine parvient à accroître ses exportations.
Effectivement, 3,3% en rythme annuel enregistré au mois de juillet, c'est le meilleur chiffre depuis 5 mois et ce malgré les nouvelles taxes mises en place par Washington en mai dernier. À la clé, il y a une très légère baisse de l'excédent chinois avec les États-Unis, 28 milliards de dollars en juillet contre un peu moins de 30 milliards au mois de juin. Et ces tensions commerciales entre les deux pays, elles ne sont pas prêtes de s'apaiser avec cette étape supplémentaire qui vient d'être franchie par les États-Unis dans leur bataille contre Huawei. En effet, à partir de mardi prochain, un règlement officiel va empêcher Huawei de nouer des contrats liés à des marchés publics américains. Un règlement qui s'appliquera également à d'autres entreprises chinoises, dont ZTE. C'est ainsi la mise en œuvre de l'interdiction, une interdiction qui a été approuvée précédemment par le Congrès américain et qui s'inscrit dans le cadre de la loi américaine sur la défense nationale. Dans ce contexte de guerre commerciale, la Grande-Bretagne se prépare à l'après-Brexit, quelle que soit la forme qu'il va prendre. Brexit avec ou sans accord avec les Européens. En tout cas, depuis quelques jours, une délégation britannique est en Amérique du Nord. Objectif, essayer de conclure de nouveaux accords commerciaux avec le Canada et les États-Unis. Guillaume Paul.
Boris Johnson ne cesse de le répéter, un accord commercial avec l'Amérique, c'est non seulement une priorité, mais ce serait le moyen d'amortir un peu le choc, au cas où dans le même temps, la Grande-Bretagne et l'Europe devraient se quitter sans accord à l'automne prochain. Les États-Unis absorbent aujourd'hui un peu plus de 15% des exportations britanniques, mais l'Europe en attire, elle, trois fois plus. Il n'y aura donc pas assurément de quoi compenser un Brexit sans accord avec l'Europe, mais, élément rassurant pour Boris Johnson, Donald Trump considère qu'un nouvel accord pourrait permettre d'en faire beaucoup plus, dit-il. Le président américain, qui se sait en position de force sur ce dossier, devrait cela dit poser quelques conditions aux Britanniques sur deux sujets brûlants. D'abord la taxe GAFA. D'après la presse britannique, Washington réclame que la taxe censée entrer en vigueur dans quelques mois soit purement abandonnée. Et puis il y a aussi le dossier Huawei. Donald Trump fait pression sur les pays qui intègrent Huawei à l'élaboration du futur réseau 5G. Pour l'instant, Londres a reporté sa décision sur le sujet.
Et cet environnement macroéconomique plus qu'incertain, et notamment cette question du Brexit, eh bien, elle affecte certaines entreprises, Maëlle.
Et oui, et notamment le Suisse Adecco, qui publiait ce matin ses résultats pour le deuxième trimestre. Chiffre d'affaires en baisse de 3%, bénéfice qui fléchit de 6%. Le leader mondial du travail temporaire, voire rouge. Le Brexit affecte vraiment le climat, c'est ce qu'explique le directeur général d'Adecco, patron d'Adecco, qui évoque également l'impact des tensions commerciales et des difficultés en Europe, notamment dans le secteur automobile. Dans l'aérien maintenant, on connaît les chiffres du trafic passager d'Air France KLM. 10 millions de passagers tout rond, transportés en juillet par le groupe. C'est une progression d'1,8% sur un an. Une tendance qui est portée par Transavia. La filiale low cost du groupe qui est dédiée au vol moyen courrier a vu son trafic bondir de plus de 7% le mois dernier. Transavia est une filiale d'Air France KLM dont Air France KLM justement veut accélérer le développement. Air France KLM qui rassure, à la différence de Ryanair, ça ne s'arrange pas pour la compagnie irlandaise. Avec cette nouvelle grève des pilotes qui a été annoncée hier soir, une nouvelle grève à partir du 22 août, les revendications des pilotes portent sur leur salaire. Ryanair qui assurait pourtant ces derniers mois avoir réglé tous les différends sur les conditions de travail de ses employés.
Et puis dans l'automobile, à présent, avec une question, Maëlle.
Et oui, Dongfeng souhaite-t-il se désengager du capital de PSA? Vous le demandez, c'est pourtant ce que croit savoir Bloomberg. D'après l'agence financière, le constructeur chinois mènerait actuellement une ruée stratégique. Objectif, céder ses parts dans le constructeur automobile français. Il détient 12% du capital. Les explications avec Jean-Baptiste Huette.
Dongfeng est aujourd'hui le deuxième actionnaire de PSA avec 12,2% du capital. Selon Bloomberg, une cession totale ou partielle serait envisagée. Dongfeng souhaiterait discuter avec PSA de la marche à suivre afin de préserver leur relation. Une relation justement nouée en 2014 lorsque Dongfeng, en échange d'argent frais pour sauver PSA, s'est invité au capital. L'occasion à l'époque aussi pour PSA de s'ouvrir les portes du marché chinois. Ainsi, les deux constructeurs ont forgé une co-entreprise. Seulement ces derniers mois, le marché chinois est en pleine déconfiture et les résultats s'en ressentent. Devant cette chute qui devrait se poursuivre, cette cession des titres de PSA pourrait permettre à Dongfeng d'investir plus massivement dans les électrique, mais aussi de se préparer à une éventuelle consolidation du marché chinois. Dans un communiqué, PSA indique ne pas vouloir commenter des rumeurs. Du côté de Dongfeng, on explique ne pas disposer d'informations.
Deux informations venues d'Allemagne pour terminer. Deutsche Telekom d'abord, qui publie ses résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. Plus 7% pour le chiffre d'affaires de Deutsche Telekom, qui bénéficie notamment de la bonne performance de ses activités américaines, notamment de sa filiale T-Mobile. Deutsche Telekom qui annonce également qu'elle maintient ses objectifs pour le reste de l'année. Et puis Bayer, le géant de la chimie et de la pharma, qui est porté par les marchés ce matin, avec ses rumeurs sur un regroupement des activités de santé animale. Les activités de santé animale de Bayer avec celles de l'américain Elanco. Et selon les informations de Bloomberg, c'est un deal qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine.
Merci beaucoup Maëlle Laurent pour le journal. On vous retrouve à midi et demi pour un point complet sur l'actualité. Et voilà, vous reconnaissez la petite musique, c'est le point sur les marchés avec Grégoire Favet. Bonjour, comment ça se passe ce matin?
Ça va un peu mieux, le marché rebondit dans le sillage de la séance qu'on a vécue hier à New York, qui était le plus gros comeback de l'année pour le S&P 500. On a perdu jusqu'à 2% sur l'indice large américain qui est revenu finalement en clôturé en territoire positif. Donc une séance de renversement total hier sur le marché américain. On a vu des marchés asiatiques plutôt positifs ce matin avec la Chine qui n'en rajoute pas à nouveau avec un fixing du yuan, la fixation du cours pivot du yuan ce matin. matin à un niveau un peu moins faible qu'anticipé par les marchés. Donc ça reste plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. On a vu quelques bonnes surprises du côté de la balance commerciale chinoise avec un rebond des exportations au mois de juillet d'un peu plus de 3%. Donc ces nouvelles-là permettent aux investisseurs de se calmer un petit peu et les marchés se stabilisent. On gagne plus de 1% à Paris à la mi-journée. On revient au-delà des 5300 points, mais on arrive dans des zones de résistance technique qui seront intéressantes à tester et voir comment le marché réagit sur ces niveaux-là, autour de 5335 points actuellement pour l'indice parisien, avec en vedette ArcelorMittal qui a quand même beaucoup souffert, qui reprend 3%, et puis des valeurs stars hein, dans l'aéronautique. Airbus prend quasiment 3%, Safran gagne 2,5%, la tech avec Dassault Systèmes qui gagne 2,5% également, et puis les belles valeurs du luxe qui sont rachetées également par les investisseurs. Exemple LVMH aujourd'hui qui prend un peu plus de 2%. Enfin, noter l'envolée du jour hors CAC 40, c'est la biotech française DBV Technologies qui a annoncé ce matin avoir déposé un nouveau dossier de licence, une demande de licence biologique pour son Viaskin Peanut, son traitement à l'allergie à l'arachide, auprès des autorités de santé américaines. Le titre DBV s'envole de plus de 16% cet après-midi à la Bourse de Paris. Le calme semble revenir pour l'instant, avec des indices en Europe qui gagnent autour de 1% à la mi-journée.